Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi, Marie Sorbier, Florian Guettet, Philippe Noisette pour parler ensemble de Furia de Lia Rodriguez jusqu'au 15 décembre au 104 à Paris, puis en tournée. Ce sera le cas de tous les spectacles d'ailleurs dont nous allons parler ce soir. Nous parlerons ensuite de Requiem pour elle de Fabrizio Catzel et Alain Platel. En tournée donc, At the Still Point of the Turning World de Renaud Herbin avec Julie Nioche, Sœur Alice et Aitor San Juanes en tournée également. Il y aura un coup de cœur de Philippe Noisette pour Suspense. Je m'amuse chaque soir à faire ce coup-là du suspense, du coup de cœur. Restez à l'écoute. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le spectacle « Ben oui, mais enfin bon » de Rémi DeVos, mise en scène par Christophe Rock. C'est au Théâtre du Nord à Lille. Place à gagner pour dimanche 16 décembre à 16h. Et nous ouvrons cette dispute avec Furia de Lia Rodriguez, qui voit 9 danseurs sur le plateau. Pour la chorégraphe brésilienne, le groupe est une entité à part entière, dit-elle, une matière malléable, capable de traverser différents états, comme un élément liquide ou solide. C'est cette matière qu'elle explore ici à nouveau. On garde le rythme dans ce studio et c'est Florian Guettet qui commence.
Ah bah je suis bien content.
Vous savez que ça peut me faire changer d'avis à tout instant. Non, quand vous dites ça, je peux tout de suite dire, ah bah finalement non, Philippe Noisette. Non allez, je reste avec vous Florian.
Non, je suis content parce que c'est une pièce qui...
Mon but est de vous satisfaire tous.
Oui, je vois ça. C'est une pièce qui m'a vraiment réjoui, qui parle pourtant d'un sujet qui est beaucoup moins réjouissant que ça, qui est ce contexte délétère, à la fois politique, économique, sociale au Brésil. La compagnie Lia Rodriguez, comme beaucoup de compagnies de danse, de théâtre, et même comme le milieu de la culture, en sont les premières victimes. Et cette pièce est une réponse poétique, chorégraphique, physique, corporelle à cette situation-là. C'est un peu l'énergie du désespoir, de la révolte qui se manifeste sur scène, avec une attention pour ces corps minoritaires. un petit peu comme Volmir Cordero peut le faire aujourd'hui avec les corps subalternes. C'est vrai, donc il y a peut-être quelque chose qui se passe au Brésil sur cette attention à ces corps, on va dire, en périphérie, qu'on a peu l'habitude de montrer. D'où tout l'intérêt de ce spectacle-là. Donc c'est cette allégorie d'un pays paupérisé, où les inégalités se creusent, mais qui a encore envie de s'exprimer d'une façon furieuse, comme le dit le titre. Et Lia Rodriguez nous entraîne dans cette parade assez carnavalesque, entre le rituel vaudou, entre la parade, parfois, pour nous entraîner, non pas dans quelque chose de très narratif, en tout cas on ne suit pas une ligne comme ça continue dramaturgiquement, mais une succession de tableaux, souvent endiablés, pas forcément compréhensibles au premier regard. En tout cas, on cherche pendant longtemps à définir ce qu'on nous présente. Mais la misère en panache, la misère en superbe, ça fonctionne. Chez Lia Rodriguez, je pense qu'elle a aujourd'hui une maturité suffisante de toute façon pour pouvoir porter ce genre de projet. Ça a été une sorte de rouleau compresseur, vraiment. Quand je suis sorti de là, j'étais vraiment épuisé. Alors, il y avait vraiment cette sorte de ritournelle hypnotique et un chant kanak, donc on a entendu là pendant l'interlude, qui est là du
début. Quel joli mot, interlude.
Qui est là du début à la fin. Un générique, je sais pas comment.
Non, non plus, mais je vous le dirai après.
Mais en tout cas, ce rite tribal, cette marche de protestation finalement qui se voit devant nous et alors qui voit éclore des personnages grotesques, alors, mais des gens en fait qui ont envie d'en sortir de leurs conditions. Donc ça commence sur une forme d'allégorie des favelas avec des sacs de couchage, des bâches de plastique. Les danseurs se relèvent doucement, comme péniblement d'un sommeil, puis ils essayent de se retenir à un étendard et puis finalement l'étendard tient. Donc tout le monde est entraîné, tout le monde s'entraîne entre eux, on se tire, on se passe dessus, le groupe se forme, se dilate et puis il y a cette succession de personnages qui arrivent, une reine antique ou égyptienne, une sorte de gravure de mode qui fait de sa bâche plastique une robe de haute couture. On a des trois grâces qui sont peintes de la tête aux pieds. Toute une succession, comme ça, une galerie de caractères qui nous emmène, on ne sait pas trop où, comme eux, de toute façon, visiblement, ne savent pas où ils vont. Mais en tout cas, on reste dans le rythme.
Où, Philippe Noisette, alors, où, point d'interrogation ?
Où vont-ils ?
Oui, où nous entraînent-ils ?
Je crois qu'on peut dire, pour moi, c'est l'un des spectacles les plus forts de l'année, de la saison. C'est à la fois un spectacle monde, parce qu'il peut parler à un public, notamment un public français, européen. Il y a ces bâches, ces corps comme ça. Quand le spectacle commence, on ne sait pas s'il y a des gens sur scène ou pas. Et puis en fait, on peut se dire qu'au coin de la rue, on a ces bâches avec des gens qui se protègent du monde extérieur ou simplement de la misère. Il y a cette violence. Et puis il y a un côté beaucoup plus local ou brésilien, si on veut, avec notamment des références qui échappent peut-être, hein, il faut un petit peu travailler. Par exemple, il y a un corps qui est peint en bleu, on va dire, et le bleu, c'est la couleur utilisée notamment par le candomblé, qui est une religion afro-brésilienne. Donc ça, c'est vraiment une chose très 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 brésilienne. La religion est présente d'une façon ou d'une autre, mais on ne sait jamais si on tend une croix ou un fusil, si cette procession va effectivement tourner sur elle-même, si on va faire un pèlerinage dans l'eau, comme on le fait dans certains cultes. Il y a vraiment un travail incroyable de plasticité. Lia Rodriguez travaille vraiment cette matière-là, et c'est en plus une matière recyclée, c'est-à-dire que tout est fait partie d'anciens spectacles, des bouts de tissu. Elle parle même des couches de ses enfants, des couches en tissu de ses enfants. Elle avait plein de choses dans son hangar, ils ont tout mis dans un voilà, devant eux, et ils ont fait ce spectacle qui est d'une beauté déchirante, qui est vraiment un spectacle, moi, qui m'a marqué. En sortant, je vivais encore avec ce spectacle-là. Le matin, j'y pensais encore. C'est vrai qu'il y a assez peu d'œuvres comme ça aujourd'hui. Alors, la danse est d'une certaine façon assez minimale, on peut dire. Beaucoup de transe, beaucoup de choses répétées, une vraie opposition parfois entre les danseurs eux-mêmes, qui montre le Brésil dans une diversité qu'on voit rarement. Voilà, diversité de corps, diversité de leur culture aussi, parce que certains sont des danseurs professionnels, certains commencent leur carrière de danseur. Florian parlait de Volmir Cordero a été un danseur de Lia Rodriguez, et on voit que ça a pu apporter à un jeune artiste comme Volmir Cordero. Je conseille vraiment à nos auditeurs de courir voir cette furia, de se laisser emporter par cette furia.
Alors, cette furia, elle va d'abord être là, être au 104 et puis à Paris, et puis beaucoup de dates que je vais donner dans un instant. Donc géographiquement, beaucoup de nos auditrices et auditeurs peuvent se sentir concernés. Marie Sorbier, concernée par cette furia?
Bah bien sûr, totalement.
Et
amoureusement, j'allais dire. C'est un spectacle qui laisse des traces, en fait. C'est vrai qu'on en ressort avec... On peut pas s'en dépêtrer comme ça. C'est pas le spectacle qu'on oublie en sortant. C'est le spectacle qui reste. Ça reste sur la peau, ça reste dans la tête, ça reste dans les oreilles. Ce chant kanak, comme ça, qui est là pendant plus d'une heure et qui est lancinant et qui monte en volume et qui envahit totalement tout le corps de tous les spectateurs qui font du coup un corps unique en écoutant ce chant et en étant bercé comme ça par ces pulsations assez fortes. Mais je trouve que c'est un spectacle qui, même si on n'a pas les références, même si on ne connaît pas les religions brésiliennes, même si on n'a pas tout cet apanage-là, c'est un spectacle qui est finalement très accessible. Justement parce qu'il parle à des choses assez archaïques qu'on partage tous. Donc c'est le spectacle accessible par excellence finalement, avec un niveau d'exigence magnifique. Moi j'ai été notamment marquée, on l'a dit, c'est un spectacle cortège, c'est un spectacle défilé. Donc c'est des gens qui se lèvent, c'est vraiment un cri de rage qui part d'un tas de décombres, donc d'objets recyclés comme vous l'avez dit. Ça commence par une érection comme ça, cette espèce d'étendard, ce drapeau qui se lève et puis tous qui se lèvent au fur et à mesure pour le suivre. Et puis ensuite, c'est un défilé, un cortège comme ça, ininterrompu, de tous ces gens qui sont nés de ça. Et ce qui est absolument magnifique, c'est la fluidité, notamment sur les costumes. C'est-à-dire qu'ils passent d'un état de nudité à un état habillé, à un état animal, avec une fluidité. On les voit pas passer d'un état à l'autre. Ils sont comme ça parés d'oripeaux qui apparaissent et qui disparaissent d'une façon extrêmement fluide. Et ça, c'est vraiment très beau.
Vous me donnez très envie d'aller au 104 ou ailleurs. Mais sur l'accessibilité, c'est toujours effectivement cette question-là. Alors, comme vous êtes tous les trois dithyrambiques, vous allez peut-être répondre la même chose que Marie, mais ça vous paraît si accessible que cela, Florian Guettet, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu de danse, a fortiori danse contemporaine. Il faudrait être quoi, dans un état juste de disponibilité pour recevoir cette fourrière.
Je pense qu'on peut le regarder à plusieurs niveaux de lecture, mais c'est évident que il y a même quelque chose qui est cherché du point de vue de l'incompréhension, puisqu'on a à la fin 10 minutes de monologue d'un homme noir très imposant qui incarne une sorte de bourreau et qui parle dans une langue qu'on ne comprend pas et qui n'est pas sous-titrée. Donc on a quand même 10 minutes où moi ça a été difficilement supportable parce que je n'aime pas ne pas comprendre. Je crois que ça m'a beaucoup irrité et en même temps on se retrouvait face à cet incommunicable là, quoi. Enfin, vraiment de se dire. Donc je pense que c'est même recherché si on n'a pas toutes les références. Maintenant, ce qu'il y a d'immédiatement accessible, ce qui fait que c'est extrêmement déjà physique, extrêmement plastique, donc il y a toujours quelque chose auquel se raccorder. Ça m'a même rappelé dans sa façon de jouer avec les codes du tragique. Ça peut être du Yann Fabre, ça peut être les bacchanales de Marlène Montero Freitas. Donc vraiment ce spectacle jouissif dans lequel personne n'a de mal à rentrer finalement. Sauf que c'est beaucoup plus politisé que ça, avec une vraie inversion des valeurs, des ordres, des hiérarchies qu'on voit petit à petit se mettre en place. Des corps blancs, le corps, il y a un danseur qui est roux, qui est extrêmement presque diaphane, quoi, de peau et qui est recouvert ensuite d'encre noire. Donc ça, c'est des choses très très lisibles. Et puis on a toutes ces façons de créer, de faire feu tout bois avec effectivement ces matériaux de briques et de brocs qu'on a là. Donc je pense que tout le monde peut retrouver aussi le bricolage enfantin, peut retrouver aussi ces façons de construire avec des bouts de ficelle et puis de se recevoir de toute façon ce spectacle complet, quoi, très vraiment rutilant, enfin qui auquel on n'échappe pas, quoi. C'est très difficile d'échapper à ce spectacle. Il y a pas de confort, il y a pas d'angle mort dans lequel on pourrait venir. La musique aussi évidemment joue beaucoup là-dessus. Elle est très puissante pour ça, mais elle est très puissante dans la durée, c'est-à-dire que vraiment elle nous entraîne dans sa course, hein, dans son trot peut-être plus d'ailleurs que sa course, même s'il y a des envolées plus rapides. Donc oui, c'est vraiment difficile d'y échapper. C'est difficile de même. Si on n'a pas de jugement, c'est difficile de ne pas le recevoir. Il n'y a aucune barrière de protection.
Philippe Noisette, sur cette question.
Juste revenir sur ce que disait Florian, à savoir que ce final, qui pourrait peut-être poser problème si c'était l'ouverture du spectacle, c'est ce monologue avec un mélange.
Langue.
Voilà, un monologue avec, il y a un petit peu d'allemand, du français, du brésilien, et peut-être même des langues que je ne connais pas, je n'ai pas reconnu. C'est presque beau de finir sur quelque chose qui vous laisse comme ça dans l'incompréhension. Vous dites, alors qu'auparavant, c'est assez simple. Les visions arrivent, elles vous parlent ou elles ne vous parlent pas. Mais la transformation, et c'est vrai qu'il faut le redire, le fait de passer avec autant d'aisance d'une bâche plastique à presque rien, de revenir avec une espèce de filet qui vous emballe, de faire que tout ceci est très fluide, très beau. Vraiment, je ne m'étonne pas que les sources qui sont citées un petit peu dans la feuille de salle soient aussi diverses que une auteure de science-fiction américaine, qu'une auteure brésilienne qui a vécu dans une favela, que des gens qui font des recherches. voilà, il y a cette volonté d'incarner, non pas d'illustrer ou d'interpréter des textes. Et je trouve que ce maillage, cette espèce de broderie, elle parle elle-même de broderie, Lia Rodriguez, fait que le spectacle est un spectacle d'une rare beauté, mais aussi d'une rare violence, et qui vous laisse, qui vous laisse un peu pantois. Et je ne sais pas si j'ai envie d'y retourner, mais je crois que oui.
Mais à vous entendre, on a vraiment besoin d'artistes comme Lia Rodriguez. Vous voulez dire un dernier mot, Marie Sorbier, ou...
Non, dire aussi que c'est un spectacle qui, moi, m'a beaucoup marqué sur le concept de métamorphose. Je trouve que c'est vraiment, on commence à un endroit, on finit à un autre, et tous ces personnages qui sont en scène prennent des allures très différentes et passent vraiment de cet aspect humain, animal, presque chosifié par moments, dominé, dominant, et tout est complètement... tout le monde a tous les rôles, donc il n'y a pas d'incarnation précise, mais juste cette espèce de fluidité, en effet, cette masse organique où tout le monde passe par tous les stades de ce qu'elle dénonce, en fait, et de ce qu'elle veut dire. C'est vraiment un spectacle qui donne une urgence de vivre, aussi.
Et c'est ce qui fait, il me semble, aussi, qu'on accepte certaines positions, notamment l'appropriation de l'esclavage. C'est-à-dire que ça pourrait être très violent de voir des jeunes gens nus, à quatre pattes, tirés comme un attelage. Mais comme, justement, ils n'arrêtent pas de renverser les rôles, de se transformer, de passer de l'un à l'autre, etc., ben, ça rend la chose supportable et ça rend la chose totalement acceptable et acceptée.
Furia de Lia Rodriguez, du 12 au 15 décembre au 104 à Paris. Ça, c'est dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Et puis quelques dates de la tournée. 18 décembre à l'Hippodrome à Douai. 15 et 16 janvier à l'AMC de Grenoble. 19 janvier à Massène Nationale, pays de Montbéliard. C'est Danse à Belfort. Un saut à l'étranger. Puis le Parvis, belle maison à Tarbes, le 29 janvier. 31 janvier, 1er février, au centre chorégraphique de Haute-Garonne, de Garonne même, à Toulouse. 5 février, Tête des Salins à Martigues. 11 et 12 février, au Festival Antigel à Lignon, à côté de Genève. Et puis 15 février, aux Hivernales, Avignon. Il y a d'autres dates un peu partout en Europe, à Francfort, à Porto, à Berlin, à Munich, à Bruxelles. Ce sera au Kunsten Festival des Arts les 24 et 27 mai prochains. À suivre dans la dispute Requiem pour elle, à The Still Point of the Turning World et un coup de cœur de Philippe Noisette.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute danse avec Requiem pour elle, le tandem Platel-Cassol est de retour avec donc cette réinvention, réinterprétation du Requiem de Mozart, car Cassol dirige la réinterprétation musicale qu'il a écrite avec du jazz, des sons venus d'Afrique, et bien sûr pas mal quand même de Mozart dedans, le tout avec des musiciens qui viennent eux aussi d'un peu partout dans le monde, tandis que Platel se base sur cette nouvelle partition pour l'écriture de ce qui se passe sur scène, même si l'essentiel, on va en parler, se passe par le biais d'une vidéo.
Lacrimosa, dies ira, lacrimosa, dies ira.
Thank you.
reconnu le Requiem de Mozart, réinventé, réinterprété, réarrangé par Fabrizio Cassol. Philippe Noisette, vous commencez à nous parler de ce spectacle. J'ai parlé de la vidéo, il faut quand même évidemment expliquer ce qu'on voit quand on est spectateur de ce spectacle qui lui aussi est en tournée, longue tournée pour Requiem pour Elle.
Alors le Requiem pour Elle, Elle est effectivement une personne. C'est cette personne que l'on voit sur cette vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à comment présenter le spectacle, comment informer ou non les spectateurs. Chaque théâtre, je crois, choisit ou pas de donner des informations concernant cette vidéo. Alors, il faut voilà dire très simplement, c'est une personne en fin de vie qui est filmée. C'est assez court. Hein. Je pense que le film original doit faire quelques dizaines de minutes. Il est étiré le temps du spectacle. Donc il y a un effet un peu voilà un grain comme ça hein, du ralenti. Cette vidéo est projetée voilà en fond de scène. Je pense qu'on a j'ai essayé de dire le plus simplement cette partie du spectacle, ce requiem est donc un requiem à la fois très vivant et qui traite à sa façon de la dignité, de la mort, de la volonté. C'est un spectacle effectivement qui est assez perturbant. C'est un spectacle que j'aime beaucoup néanmoins. Fabrizio Cassol avait travaillé avec Alain Platel sur Coup Fatal. On peut dire que Coup Fatal est un petit peu l'anti-requiem pour Elle. Coup Fatal était une célébration. Les artistes, dont certains sont d'ailleurs dans Requiem pour Elle, jouaient avec le public. Là, c'est le contraire. On est vraiment dans l'intériorité. On chante pour soi ou pour le chanteur qui est à côté de soi. C'est un spectacle, je crois, qui marque un moment un peu particulier dans la vie de ce créateur qui est Alain Platel, qui dit souvent je ne m'intéresse pas tant à la danse elle-même, la danse codifiée, mais plutôt à d'où vient le mouvement qu'il a interprété par un amateur ou un professionnel. Dans une démonstration, le spectacle n'est pas un spectacle de danse, a priori. C'est autre chose.
Alors c'est quoi, Marie Sorbier ? C'est autre chose.
Justement, c'est une bonne question, parce que ce n'est pas un concert non plus. Ce n'est pas un spectacle de danse, c'est un hommage mise en scène. C'est pour ça que c'est un spectacle qui est difficile, je trouve, à critiquer, parce que pour moi, il a vraiment agi en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a eu le temps de la représentation, où il est difficile de ne pas se laisser prendre, parce que tous les ingrédients y sont pour que l'émotion soit à son paroxysme. Il y a cette image.
Ça peut être extrêmement repoussant aussi. Comme,
Alors, c'est pour ça que j'arrivais à mon deuxième temps. Mais excusez-moi, mon premier Marie. Temps est quand même positif. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, tu es pris dans quelque chose de très fort, de très intime en même temps, parce que cette femme projetée en fond de scène sur un très grand écran, c'est son visage qui est cadré, dans un montage qui est d'ailleurs assez bien réalisé, je trouve. On est dans un léger ralenti, il y a les marques d'attention de ses proches qu'on voit arriver, des mains qui posent sur l'épaule, des embrassades, et c'est terrible, parce qu'on se surprend même à guetter le moment où elle va passer de la vie à la mort, et tout le spectacle, on est en train de la regarder, dès qu'elle bouge plus, on se demande si ça y est, et puis est-ce que ça y est pas, et puis elle réouvre les yeux, donc il y a ce côté un petit peu difficile, je trouve, en tant que spectateur, en tout cas moi, en train de la regarder. Et puis, sur le plateau, il y a ces 15 interprètes, je sais plus combien ils sont, 14, 15, qui sont en effet dans une joie, alors qu'on parle d'un requiem, mais qui sont dans quelque chose d'extrêmement vivant. Et donc, cette musique réimpulsée par Cassol d'une façon incroyable, ces interprètes rayonnants, ils sont à la fois complètement rayonnants et très terriens, ils sont entre eux, on est pris par la musique, par l'image, et donc j'en arrivais à ce deuxième point où, en sortant après, j'étais presque un peu énervée de m'être laissée prise en otage par quelque chose de peut-être un peu facile.
Alors, Florian Guettet, pour finir ce premier tour de table sur Requiem pour Elle.
Moi, j'ai tenté une définition, une qualificative. Ce serait peut-être une tragédie musicale, comme on parle de comédie musicale, mais effectivement pour son pendant tragique. En fait, ça met vraiment en relation ces deux attitudes, qu'on peut avoir face à un phénomène qui est certes universel, qui est la mort, à savoir la plainte du requiem original, avec cette sorte de lourdeur ou de gravité, et puis une façon peut-être plus joyeuse, effectivement, où on célèbre la vie à travers la mort, et qui est notamment dans des cultures non accidentales. Et c'est en fait ce déplacement-là qu'opère Alain Platel qui, moi, m'a paru vraiment intéressant. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'avec mon goût, je puisse tout valider. En revanche, le décentrement auquel il m'a obligé, lui, par contre, j'ai trouvé hyper intéressant, très intéressant. En fait, effectivement, cette vidéo, bon, elle est particulière parce qu'en fait, tout le monde a une relation à l'agonie de façon générale, et pour peu qu'on ait vécu ça une fois dans sa vie, bah, c'est difficile d'en faire abstraction, c'est difficile de là se placer comme un spectateur neutre, mais il y a quand même une possibilité de mettre à distance cette image-là quand on veut, et moi j'ai réorienté, on va dire, mon attention et mon regard pour pouvoir oublier à un moment ces images-là qui effectivement moi m'étaient un peu difficilement supportables à certains moments, mais ce qui fait que c'est pas aussi voyeuriste par exemple que quand Sophie Calle a filmé sa mère. Je trouvais ça beaucoup plus dans la distance, il y a fait le ralenti.
Pareil, c'est une œuvre de Sophie Calle, hein, puisqu'elle a posé sa caméra sur un pied dans la chambre d'hôpital où était sa
pour
mère.
Pour enregistrer le dernier souffle.
Le moment de la mort vraiment de sa mère.
Mais du coup,
une œuvre qui a été montrée à plusieurs reprises.
Où toute l'attention est focalisée sur l'image, où on n'a pas d'échappatoire, alors que là, finalement, on a effectivement entre les deux ces interprètes qui sont rayonnants, qui sont d'une intensité folle, qui nous entraînent vraiment avec eux. Il y a une vraie force d'émulation de la part de ce groupe-là. Et en fond, on a cette image qui est au ralenti, en noir et blanc, qui est muette aussi, même si elle est en grand écran. Donc ça y fait, ça laisse quand même une certaine marge voilà, de protection. Et donc on se concentre sur ces allers-retours qu'on fait constamment entre ce lieu de vie qui est sur scène, le scène vivant, et puis cette image de la mort qui est un peu plus lointaine, un peu plus déréalisée, parce que ça reste quand même de l'image enregistrée, même si c'est en temps réel, c'est pas en direct. Alors sur ce mélange des genres, effectivement, il y a quelque chose qui aurait pu paraître finalement indécent. Enfin, en tout cas, on touche aux limites de la décence, évidemment, avec ça. Et j'ai trouvé que finalement, Alain Platel avait réussi à être beaucoup plus nuancé, finalement, dans cette approche-là. Je me suis pas senti vraiment pris au piège. J'irai pas jusque-là, même si, effectivement, on se laisse entraîner, mais ça avait quelque chose de réconfortant à un moment de se laisser quand même entraîner par ça et de pas se laisser dévaster par ses émotions. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie tragique, je trouve vraiment là-dedans, c'est-à-dire arriver aussi à accepter une réalité voilà qui est certes difficile mais bon, qui nous concerne tous et qui est très frontale là, mais le fait qu'on soit dans cette ambiance presque douce amère ou sucrée voilà un peu plus édulcorée, ça m'a permis quand même de réenvisager ma position c'est-à-dire face à la mort, mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment le sujet principal ou que le sujet. Faut rappeler quand même quelque chose sur la scénographie aussi, c'est-à-dire que c'est une sorte de triple combo. On parle de la mort et l'agonie, on parle du Requiem de Mozart qui est quand même une grosse pièce, et puis on a une scéno qui rappelle un cimetière juif et qui évoque la Shoah. Donc moi sur papier j'étais très circonspect, autant vous le dire. Et même si tout m'a pas convaincu esthétiquement, parce que c'est pas forcément là qu'est mon goût. Vraiment les questions que ça soulève chez moi sont très profondes.
Alors vous n'étiez pas convaincu sur le papier, je ne sais pas ce que vous saviez avant de découvrir ce spectacle, mais comme Philippe Noisette l'a évoqué tout à l'heure, chaque lieu de représentation choisit d'informer par le biais de feuilles de salle, et je crois, sauf erreur, que pour Alain Platel, la consigne c'est plutôt moins on en dit et mieux c'est, ce qui ne va pas pour moi sans poser problème, parce que forcément il y a des gens qui sont... alors, je ne sais pas s'ils sont pris au piège, mais en tout cas, ils pensent avoir affaire à une représentation de spectacle, avoir une comédienne sur une vidéo, et qu'effectivement, la dimension de réel est quand même, pour moi, extrêmement forte. Moi, c'est un peu ma limite, enfin, chacun en a, mais la vidéo de Sophie Calle, je ne suis jamais allé la voir à dessein. Marie Sorbier.
Sachant que dans la même saison, c'est quand même la troisième vidéo de ce type-là que je vois. Pippo Del Bono avait fait la même chose avec sa mère dans Orchidée.
Pareil, je ne suis pas allé.
Voilà. Et Milo Rao dans L'âme God, le dernier spectacle qu'il a présenté au Entegante, c'est pareil, avec la sœur présente sur scène et puis donc la sœur aînée sur l'écran. Aussi on voit son dernier souffle. Donc,
bah, tout dépend aussi comment c'est amené, présenté, comment ça s'insère dans un spectacle. Dans le cas présent, on parle de Requiem pour elle, et il y a quelque chose de l'effet de surprise, je sais pas comment dire ça, mais Philippe Noadette, qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là quand même, qui n'est pas rien?
Non, ce n'est pas rien. Il faut évidemment préciser que ce ne sont pas des images volées, qu'il y a eu un travail. Non, mais je le précise aussi. On peut penser que voilà, sur Internet, on a tellement de choses.
Non, vous avez raison, Philippe.
Donc il y a une vraie connaissance.
Cette Belgique n'a pas la même législation sur l'euthanasie, rappelons-le, que la France, et que les deux créateurs sont belges.
Voilà.
Et que la question se pose différemment chez eux.
La pièce a été créée à Berlin. Florian parlait tout à l'heure du cimetière juif. On peut penser au mémorial de l'Holocauste, bien Berlin, sûr, qui est un lieu avec une certaine théâtralité.
C'est moins qu'on puisse dire.
Donc il y a évidemment ce jeu. Il y a eu un travail avec la famille, qui était sans doute beaucoup plus hésitante que la personne connaissait le travail d'Alain Platel, la personne qui est filmée. Voilà, il y a eu énormément de discussions.
Ça, c'est bien de le dire.
Alors peut-être qu'il peut y avoir une méprise. On voit sur le papier le Requiem des Mozart qui va être réécrit. C'est magnifique musicalement, c'est magnifique. Il y a un travail.
Donc, il y a eu
insensé.
Wolf avant. Enfin, il y a eu d'autres.
Voilà,
il y a
tout à fait. On sait leur appétit justement pour trouver des liens avec une autre forme. Par exemple, il y a les fameux. On entend les fameux kalimbas, on entend de l'accordéon. Le kalimba, c'est ce que les colons européens appelaient les pianos à pouce. C'est vrai que quand j'ai assisté à la représentation, je l'ai vu deux fois, je l'ai vu à Anvers et à Paris, je n'ai pas eu autour de moi de personnes qui justement disaient il n'y a pas d'information, on m'a pris au piège. Je pense que les gens réagissent peut-être un peu après, peut-être chez eux tout simplement, ou en parlant. C'est aussi une question du... il interroge notre regard sur, effectivement, ces choses-là. C'est important qu'un artiste comme Alain Platel, au moment où il en est dans sa carrière, il le fasse, et comme disait Florian, avec cette... cette façon à lui, que j'aime beaucoup, Mais je sais qu'on peut discuter très longtemps de ce spectacle.
On ne va pas discuter très longtemps parce que l'émission file, mais quand même, Marie.
Quand je parlais du piège, je ne parlais pas tellement de la véracité ou non des images qu'on voyait. C'était plutôt pour moi le combo des différents éléments dont on a parlé. Est-ce que l'émotion n'était pas obligatoire? C'est-à-dire qu'il m'a manqué la place, la possibilité... presque d'être extérieur, et en fait je trouve qu'on ne l'a pas.
D'être spectatrice.
Et on est complètement impliqué. Alors ça a des côtés très positifs, c'est pas négatif totalement dans ce que je raconte, mais il y a eu quelque chose d'un après-coup de ce spectacle qui était avec un goût amer, alors que pendant la représentation l'expérience de spectateur était plutôt complètement en empathie et impliquée totalement.
Florian Guettet, pour finir sur Requiem pour elle.
Oui, mais je partage. Enfin, il y a effectivement un inconfort. Il y a un vrai malaise qui s'installe.
Oui, on va pas au spectacle pour être dans le confort. C'est pas ce que je veux dire non plus. On ne se méprenne pas sur mes propos.
Bien sûr. Simplement, c'est vrai que ce malaise-là, c'est aussi comment, à quel moment la mort peut être un spectacle. C'est-à-dire, est-ce que le spectacle de la mort, et on est tous malgré tout pris dans ces sortes de pulsions à voir, pulsions scopiques, où peut se repaître et où on se sent, est-ce qu'on se sent coupable ou pas, et est-ce que notre position de spectateur, elle nous protège de cette culpabilité-là ou pas. Et moi, ça m'a vraiment renvoyé à ça, ça me renvoie à quiconque a déjà vécu cette expérience-là. C'est très difficile d'en faire abstraction, mais ça permet vraiment un travail introspectif que je remercie Platel pour ça. Ouais.
Alors, remercions Philippe Noadette qui a un mot à ajouter.
Juste une chose, si on ne se sent pas de voir ce spectacle-là avec tout ce qu'on a dit, on peut écouter, car la bande-son vient de sortir,
Le
Requiem pour elle.
Il est sorti en disque.
Ça sort en disque.
Ah, très bien.
Le travail qu'a fait Fabrizio Gassol avec ses musiciens et ses chanteurs est vraiment à écouter.
Bah oui.
C'était vraiment magnifique, c'est vrai.
C'est toujours bien, Fabrizio Gassol. Requiem pour elle. Fabrizio Cassol, Alain Platel, en tournée, puisque ça a été, vous l'avez vu pour certains en tout cas, au théâtre de Chaillot, où il était présenté il y a maintenant une quinzaine de jours. La tournée se poursuit 19 et 20 décembre au théâtre de Nice, 11 et 12 janvier au Quai à Angers, 16 janvier à Louvain, le 19 janvier à la scène nationale de Calais, le Chanel, 25-26 janvier au Teatro Central de Séville, 29-30 janvier l'apostrophe Sergi Pontoise, 1er et 2 février l'Arsenal à Metz, 5 et 6 février à Bayonne, 8 février le Parvis à Tarbes, excellente maison, le 14 et 15 février à Clermont-Ferrand, du 27 février au 1er mars au Maillon à Strasbourg et du 5 au 7 mars à la MC2 de Grenoble. Et puis après cette discussion sur Requiem pour elle, il me semble tout naturel de choisir ce moment pour poursuivre la semaine spéciale de France Culture consacrée au 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce jour, dans toutes nos émissions, on a pu entendre différents articles de cette déclaration. On va écouter à présent l'article 27, lu par l'autrice et comédienne Sylvie Granoutier.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Et c'est le moment du coup de cœur de Philippe Noisette, un coup de cœur que j'adore parce que c'est Graines d'étoiles, 5 ans après. Et ça, c'est vraiment Que sont-ils devenus ? Série documentaire Arte, ça va être diffusé du 23 décembre au 20 janvier. Et puis évidemment, pour aller les voir en replay Arte plus 7. Alors, petit rappel, Graines d'étoiles, pour parler de Graines d'étoiles 5 ans après, Philippe Noisette.
La réalisatrice Françoise Marie avait suivi des jeunes danseurs, vraiment des apprentis danseurs. Mmh. Ils faisaient partie de l'école de danse de l'Opéra de Paris, pour certains. On les retrouve 5 ans plus tard. Ils ne sont pas tous là, puisque... Quand on est un jeune danseur, quand on est à l'école, parfois on prend la tangente, on n'entre pas forcément dans le ballet de l'Opéra de Paris. On essaye, mais pas toujours, ça ne marche pas toujours. Donc on va retrouver certains, pas tous. Ils ont pour prénom, alors ne m'en voulez pas Arnaud, je vais ne donner que des prénoms, puisque c'est comme
ça. Pour une
fois,
vous avez le droit.
Dans le feuilleton, on les nomme. Antonio, Ida, Roxane, Pablo, Julien, Marion, Chun, Alice. C'est vraiment une série... comme une série documentaire addictive. On a envie de savoir ce que sera le prochain épisode. C'est très simple. On les voit évoluer, on les voit changer. Il y a évidemment des petits inserts avec comment Pablo était 5 ans plus tôt. Donc c'est assez drôle. Chaque épisode est un petit peu, on va dire, centré sur un événement. Il y a un épisode autour du concours, le fameux concours.
Ouais, quand même. Ce sont des 26 minutes, hein, précisons-le.
Tout à fait. Donc on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Non. Ce qui se passe, c'est que le tournage s'est effectué entre, je pense, l'automne 2016 et l'automne 2017. Donc, si vous voulez, entre deux événements un petit peu compliqués pour l'Opéra de Paris.
Pour rappel,
le départ de Benjamin Millepied, son directeur. Entre-temps, l'arrivée d'une nouvelle directrice, Aurélie Dupont, avec ses toiles de la maison. Et puis surtout, il y a eu cette année quelques problèmes sur comment la compagnie est dirigée. Donc, entre les deux, il y a
ce
petit film, ce documentaire. Et il y a une vraie liberté de parole. Je trouve que ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes danseurs qui ont 17, 18, 19 ans, qui parlent des stéréotypes du ballet, par exemple. Il y en a un qui raconte que dans Casse-Noisette, au moment des danses évidemment folkloriques, eh bien les Chinois sont en jaune, les Russes sont un peu ivres. Voilà, ce genre de choses. Et puis il y a d'autres paroles qui sont beaucoup plus fortes. Pablo justement parle de il a une expression qui est très très drôle, c'est les fesses par terre. C'est quand vous entrez dans l'école, dans le ballet, dans le corps de ballet, vous passez votre temps au début à être remplaçant et on ne peut rien faire dans le cours. On vous dit assis-toi, ne bouge pas, on ne peut pas prendre des effets. L'épisode numéro 2, je fais très vite, est avec Jerry Killian. Jerry Killian est un maître et je vous dis simplement cette petite chose, c'est un conseil que donne Killian. Il dit, si tu prends des risques, c'est fantastique ou terrible. Si tu ne prends pas de risques, c'est définitivement horrible.
On est absolument d'accord avec lui. Alors, si vous voulez rattraper la saison 1, il y a le lundi 31 décembre, voyez, pour préparer votre réveillon à partir de 10h05. Les 6 premiers épisodes de la saison 1 sont diffusés à la suite sur Arte et puis ensuite, avec vos jongles avec le replay, hein, parce que ça commencera le 23 décembre et la diffusion va s'échelonner jusqu'au 20 janvier, ces Graines d'étoiles, 5 ans après.
La dispute, France Culture.
Et le troisième spectacle à notre affiche, c'est At the Still Point of the Turning World, de Renaud Herbin, en collaboration avec Julie Nioche, Sœur Alice et Aitor San Juanes. C'est en tournée jusqu'au mois de mai. Là aussi, je vais donner les nombreuses dates. Un titre en anglais pour ce collectif créateur français. Mais bon, pour une fois, il y a une excuse. C'est un vers de T.S. Eliot, dont la traduction nous est tout de même donnée au point de la quiétude du monde qui tournoie, ce qui est quand même très beau. Ce que l'on voit au départ aussi, une danseuse, des marionnettistes, une musicienne, une foule. Une foule de quoi ? On voit des fils pendre, il y a des sacs, qu'y a-t-il dans les sacs ? Suspense.
The end.
Un peu de musique dans cette émission. Marie Sorbier, si vous commenciez à nous parler de At the Still Point of the Turning World. Alors c'est vraiment, je l'ai dit, hein, une agglomération ou, une addition de talents divers dans ce spectacle.
C'est une proposition très singulière et je suis très heureuse d'en parler en fait.
Ça fait rire Philippe Noisette, mais vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Quel mauvais camarade.
C'est terrible. Non, mais je suis sûre qu'en plus, ça va très bien se passer. Je voulais commencer en citant Victor Hugo.
Oui, parce que Victor Hugo.
Pourquoi pas? Parce que quand il dit « Pour que la matière morte nous trouble, il faut que l'esprit y ait vécu », c'est dans L'homme qui rit, je trouve ça très joli. Et je trouve que ça résume très bien les questionnements et le travail de Renaud Herbin. Renaud Herbin, je le resitue juste en deux mots. Un marionnettiste qui dirige aujourd'hui le TJP à Strasbourg. Et c'est quelqu'un qui... je trouve, donne aujourd'hui à la marionnette, en tout cas aux gens qui sont un peu éloignés du monde de la marionnette, une image contemporaine et une image qui dépasse le statut de la marionnette comme on peut l'avoir. Et ce spectacle, je trouve que c'est une très belle réalisation sur ce point précis, c'est-à-dire qu'on a bien du mal à le qualifier entre marionnette, danse, installation, puisque vous parliez donc de ce dispositif central qu'on pourrait nommer une installation. C'est des centaines de fils sur lesquels pendent des petits sacs en plastique, des petites bourses comme ça, qui vont naviguer et qui vont se transformer tantôt en mer, en houle, en plein de choses. On peut y voir j'imagine beaucoup d'images dans cette installation, et nous ne saurons pas ce qu'il y a dans les sacs. Enfin, en tout cas, moi, je ne le dirai pas, peut-être.
Non,
je refuse.
On ne le dira pas ici.
Je garde ce suspense jusqu'au bout, mais l'histoire est très belle, ceci dit, sur ces sacs. Ce que j'aime dans le travail de Renaud Herbin, c'est qu'il questionne toujours, dans ses spectacles, l'espace laissé aux choses. Donc, c'est un marionnettiste, travaille sur l'objet, et l'espace qu'il laisse à ces objets qu'il manipule. Et la symbiose entre lui et sa marionnette, c'est le début du spectacle. Tout le début du spectacle dans le noir, et on a cet être de bois qui essaie d'échapper à la pesanteur. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est ce qu'après va essayer, par la danse, de réitérer Julie Nioche quand elle se lance dans ce dispositif comme ça, peut-être aussi pour échapper à la pesanteur. Elle finira allongée, mais je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là.
Je reviendrai vers vous, Marie, parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais Florian Guettet, sur ce spectacle, chaque fois je redis le titre, je prends 10 secondes, mais bon, c'est At the Still Point of the Turning World, pour bien savoir de quoi on parle.
Un spectacle très plastique, d'abord. C'est vrai que vraiment c'est ce qui saute aux yeux, cette structure centrale, donc chaque fil en fait est accroché à une sorte de structure en métal au-dessus qui est modulable et qui permet effectivement de simuler, de stimuler le démouvement liquide ou fluide, donc plutôt dans le milieu aqueux. Et ce qui est très réussi là-dedans, c'est que la danseuse va intégrer cet élément à queue, mais elle va finalement buter tout le temps sur la matière. Et donc on a une sorte d'incertitude sur cette matérialité-là, cette forme de plasticité qui est face à nous, et jusqu'au bout, on ne sait pas quelle matière on a. Et ça vaut autant pour cette scénographie que pour les corps. C'est-à-dire que la marionnette, effectivement, était très anthropomorphique, c'est une marionnette d'adulte, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, c'est presque un mannequin. Et puis on a ces corps présents qui d'habitude ne sont invisibles, ceux des marionnettistes, celui de la danseuse bien sûr, et celui de Sœur Alice aussi qui est sur scène, qui performe. Alors moi je suis tout acquis à la cause de Sœur Alice, je trouve qu'elle est extrêmement puissante et je suis heureux de l'avoir vue performer sur scène et qu'on l'ait pas reléguée en coulisses ou voilà, parce qu'elle joue en live, elle fait aussi les bruits, les souffles, elle accompagne, elle est très très présente dans sa discrétion, dans son retrait.
Alors Sœur Alice, je précise, c'est écrit S-I-R, hein, parce que quand vous en parlez, on pourrait croire que c'est S-E-E dans l'eau, U-R.
Oui, c'est un prénom androgyne, voilà. Androgyne, choisi à dessein. Alors sur la danse à proprement parler, donc on a Julie Nioche qui a déjà travaillé d'ailleurs avec Sœur Alice sur XX avec Alice, une de ses premières pièces. Au début, donc elle hésite à rentrer finalement dans cette structure, elle est dos au public et puis finalement elle rentre, elle se laisse emporter dedans et puis elle est un peu recouverte par toute cette matière, ce qui fait que la danse est presque avalée, ingurgitée par le décor et par la scène, ce qui laisse quand même une petite impression d'exclusion du public. C'est-à-dire qu'on n'a pas une démonstration, on n'a pas une adresse au public. À aucun moment, la danse vient de s'adresser à nous. Celui qui vient s'adresser, c'est plutôt la marionnette qu'on voit au début, qu'on voit un petit peu de façon spectrale en fond de scène au milieu, et puis qu'on revoit évidemment à la fin jusqu'à ce qu'elle vienne se substituer véritablement à la danseuse. Là est un peu ma réserve sur cette fin-là, un petit peu pathos, avec des emprunts comme ça, des tableaux un peu christiques, la descente de croix, le gisant, la Pietà, qui moi m'ont laissé un peu plus dubitatif parce que je trouvais que ça se mariait un peu moins avec l'ambiance musicale et avec finalement ce propos sur ces corps ambigus ou ces corps dont on ne sait pas de quoi ils sont faits exactement, comme les petits sacs qui constituent le mystère de cette émission.
Alors, il a un peu rigolé tout à l'heure, Philippe Noisette, au lancement de ce sujet sur ce spectacle dont la conception est signée Renaud Herbin. Pourquoi ce petit rire, Philippe ?
Non, je m'excuse, Marie.
Non, vous avez le droit de rire.
C'était une proposition
rire, hein.
Singulière, c'est ça ?
Ouais.
Il vous en faut peu.
Oui.
Bon, je le saurais.
Bannissons les mots singuliers.
C'est...
D'accord.
Florian parlait d'une marionnette. On peut parler aussi d'un paysage marionnette, hein, cette structure voilà, qui est animée avec les petits sacs. Renaud Herbin n'est pas seul, puisqu'il y a Aitor Sanz-Moines qui manipule avec lui. J'ai aussi une réserve sur, non pas sur Julie Nioche, qui est une vraie grande danseuse, simplement sur le manque de tension quand elle doit traverser ce paysage marionnette. Je trouve que c'est un petit peu long, qu'effectivement, on est un petit peu en dehors. Elle va vers quelque chose qui moi m'a un petit peu échappé. J'ai repensé au spectacle d'Aurélien Bory, Plexus, avec Kaori Ito, dans lequel Kaori Ito était prise comme ça dans les fils. Elle était à la fois manipulable, manipulée. Là, il y a cette petite chose qui m'a manqué, cette vraie tension, une vraie tension dramatique. C'est vrai que le final, on voit la marionnette marcher, évoluer sur Julie Nioche. Il faut dire qu'il y a des visions superbes. C'est un travail très bel objet. Je ne parlais peut-être pas de performance ou d'installation, mais un très bel objet. Et ça nous montre quand même que la marionnette est un art, un peu comme le cirque contemporain, est un art avec vraiment des créateurs d'origines vraiment diverses, de pays divers, et qui ont des propositions assez étonnantes. C'est pas seulement pour les enfants, et c'est pas simplement pour faire autre chose, voir autre chose. C'est intéressant, cette espèce de volonté d'aller avec du texte, avec de la danse, ou de la musique, vers autre chose. La marionnette en sort grandie.
Je suis bien d'accord avec vous. Marie Sorbier ?
Oui, en fait, finalement, je vous rejoins un petit peu parce que je m'aperçois, en repensant à ce spectacle, que j'ai surtout regardé la périphérie et pas le centre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appréhendé cet objet très fort, ce dispositif qui fonctionne et qui est vraiment esthétiquement très beau, Ce qui m'a fasciné, c'est les deux marionnettistes qui étaient donc sur les côtés, en périphérie, et qui, tels des sonneurs de cloches, étaient avec leur fil en train de tirer, et on voyait ces deux hommes en train de manipuler cet objet. Il y avait quelque chose d'à la fois très viril et en même temps très délicat, et cet assemblage-là, pour faire bouger cette structure, était assez fascinant. Donc finalement, c'est presque les marionnettistes... qui ont happé mon regard pendant une grande partie, en tout cas tout le centre du spectacle. Je trouve que le spectacle était en effet chez Sœur Alice d'un côté et chez les deux marionnettistes de l'autre, sans rien enlever à Julie Nioche qui essayait de se mouvoir dans ce...
C'était tellement au centre que vous ne l'avez pas vu.
Exactement.
J'ai préféré
la périphérie.
Mais c'est vrai qu'on pourrait reposer la même question que je vous posais tout à l'heure en ouverture pour Liagara Rodriguez, c'est-à-dire la question de du récit, de la narration, de ce que ça produit sur le spectateur pour ce spectacle conçu par Renaud Herbin. Dans quel état d'esprit ou quelle disponibilité il faut être, Florian Guettet ? Qu'est-ce qu'on reçoit, selon vous ?
Oh, je pense qu'avec un regard naïf, on s'en sort très bien. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très contemplatif. Donc, partant de là, déjà, on est... Mais on se pose quand même la question, c'est pour ça que même ce défaut presque de présence, presque de Julie Nioche, c'est pas un défaut de présence, mais enfin quand même, quoi, ce manque d'adresse ou ce manque... Moi, je suis pas sûr qu'il soit, que ça fasse véritablement défaut. Je sais pas, je suis très, très ambigu sur cette question. Parce que, non, mais de l'autre côté, je trouve que ça pose vraiment la question de savoir la danse qu'on veut pas faire passer pour un art de la liberté, etc., et se dire, là, dans la contrainte, qui est le plus manipulé, celui qui est emporté par les aimants, ou finalement, cette marionnette qui est normalement soumise ou dépendante de la volonté des marionnettistes, et qui finalement s'en sort mieux, parce qu'elle a une forme d'autonomie, qu'elle a une forme de... Et je me dis, ce renversement-là entre les deux, il est plutôt réussi. Je trouve que c'est tout à l'honneur aussi de Julie Nioche de se mettre un peu en retrait, et de ne pas magnifier comme ça la danse, de montrer aussi une forme de faiblesse, une forme de... et de jouer comme ça avec à la fois la musique et la scénographie pour montrer une forme de vulnérabilité de la danse sur scène au profit effectivement de cette marionnette qui en sort grandie, ça c'est évident, mais dans tous les sens du terme, même elle me paraissait immense sur scène. Elle l'est fait d'ailleurs pour paraître immense. Au début il y a un jeu de lumière comme ça, elle est seule en scène devant le rideau, et on a l'impression d'ailleurs que tout va tourner autour de cette marionnette. On l'attend jusqu'à la fin qu'elle revienne, je trouvais qu'il y avait une forme d'humilité aussi chorégraphique qui était quand même intéressante à questionner.
Dernier mot, Philippe Noisette.
Il y a un magnifique passage au sol, Julie Nioche est au sol, avec cette espèce de vague qui semble inversée, parce que le ciel devient une vague. C'est vrai qu'il y a pas mal de sa part, c'est une artiste qui a vraiment maintenant un travail reconnu, d'accepter non pas d'être l'autre marionnette, mais d'être simplement une présence dans cet environnement. Je trouve que c'est intéressant, c'est la preuve d'une ouverture d'esprit qui fait plaisir, et on trouve ce plaisir-là, après avec les petites réserves que nous avons eues les uns et les autres.
Vous voulez dire un dernier mot, Marie Sorbier ?
Non, je voulais dire que ça vaut vraiment le coup de découvrir le travail de Renaud Herbin, voilà, et ses autres spectacles qui tournent également, et je trouve que c'est un artiste intéressant.
Bon, on peut aller dans les petits sacs, alors.
Ah, allez voir. At the Still Point of the Turning World de Renaud Herbin, en collaboration avec Julie Nioche, Sœur Alice et Aitor San Juanes. Donc ça, on pourra le voir dès demain. Demain, 11, 12, 13 décembre à la Maison de la Culture d'Amiens, le 19 janvier au Granit à Belfort, 29, 30 février à l'espace Malraux de Chambéry, 6 et 7 février au théâtre de Sartrouville et des Yvelines, 21 et 22 mars au CCAM de Vendeuvre-les-Nancy, et puis du 3 au 5 mai à la Biennale des Arts de la Marionnette, ça c'est à Paris. Et puis pour tout savoir sur Renaud Herbin et ses autres spectacles, il y a le site renaudherbin.com pour en savoir davantage. Et avant de conclure cette émission, Sarah Dion nous rend visite comme chaque soir pour le jeu de la dispute et nous rappeler d'abord la question du jeu de vendredi soir et nous donner sa réponse. Sarah, si vous voulez bien en tout cas.
La question était: de quel célèbre chorégraphe, notamment à l'origine de Faïs d'Adam Massilio, a-t-elle fréquenté l'école de danse ? Et la réponse est Anne-Thérèse de Kersmaeker.
Ça fait rire les critiques de danse ici, mais
non,
tout le monde...
Ne...
Tout le monde... Bah, oui, c'est facile pour vous, moins pour d'autres. Ce soir, vous n'avez pas le temps de répondre, hein, les invitations pour le spectacle, bon, ben oui, mais enfin bon, soyons précis dans le titre, hein, c'est un spectacle de Rémi DeVos, un texte de Rémi DeVos, mis en scène par Christophe Roque, place à gagner pour le 16 décembre à 16h, c'est dimanche prochain, au Théâtre du Nord à Lille. Quelle est la question, Sarah ?
Quel est le nom de la troupe d'Ariane Mnouchkine dont le metteur en scène Christophe Roque faisait partie ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez nous réécouter et bien sûr vous abonner au podcast de l'émission. Nous nous retrouvons demain à 19h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie de Pascaline Podevin, Christophe Comte et Joseph Gosse sur nos platines. Enfin, c'est le titre, hein, de l'album de Michel Polnareff. Janine, le deuxième album de L'Homme Pâle, et puis Thought Gang, l'album qu'on attendait depuis 25 ans, d'Angelo Badalamenti et David Lynch. Et enfin, le coup de griffe que je partage de Christophe Comte contre la mort de Pete Shelley des Buzzcocks.